bien le bonjour, chers amis. Je suis Martin, étudiant en histoire et anthropologie à l'École normale supérieure et à l'École des hautes études en sciences sociales. Asseyez-vous donc au coin du feu ou sous un rayon de soleil et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de l'île Dieu. Des premiers millénaires de cette histoire, il ne nous reste que des pierres. Des pierres taillées, des pierres gravées, des pierres levées, des pierres façonnées de la main de l'homme. Autant de traces qu'il faut faire parler pour dissiper la brume de mystère qui entoure les origines de l'île Dieu. Car, avant que les Romains n'imposent l'usage de l'écriture, c'était dans le paysage même de l'île Dieu que les premiers îlets inscrivaient leur histoire. Alors, quel sens ont ces mystérieuses pierres? Il va nous falloir le découvrir ensemble.
Well, in the merry month of May, from me home I started, left the girls of Tuam were nearly broken hearted, saluted father dear.
Historia Oya, l'épisode où l'histoire n'a pas encore commencé. Pendant des siècles et des siècles, les dolmens et menhirs de l'île Dieu ont été investis par les légendes. Ils étaient la résidence des Fras, les farfadets locaux. L'église y voyait des reliques des anciens temps païens, où les druides celtiques sacrifiaient d'innocentes victimes sur les autels des dieux chthoniens. Même si les îlets n'ont jamais été les derniers à pratiquer la sorcellerie, personne ne proclamait trop fort son attachement à ces étranges rochers qui ponctuent le paysage de l'île. Mais, au XIXe siècle, victimes de négligence et peut-être de la reconquête catholique, les monuments de pierre disparaissent un à un. On raconte qu'au XVIIIe siècle, on pouvait observer deux fois plus de vestiges archéologiques qu'aujourd'hui sur l'île. L'histoire serait-elle donc finie avant même de commencer? Signe de ce désintérêt pour les mégalithes, le remarquable menhir de la pierre levée, haut de plus de 8 mètres, l'un des plus imposants de tout l'ouest de la France, a été mis à bas sur l'ordre de Napoléon III et débité en pierre de taille pour la construction de la citadelle. C'était en l'an 1858. Mais, au même moment, c'est l'histoire elle-même qui connaît une révolution. Depuis longtemps, il était admis qu'elle commençait avec l'Antiquité, les premières civilisations, les premières cités, les premiers écrits, les premiers rois. La Bible était la chronologie de référence des savants, et elle limitait l'histoire du cosmos entier à une petite demi-douzaine de siècles. Mais, à la fin du XVIIIe siècle, les choses commencent à changer. Par l'expérimentation et les lois physiques, Buffon démontre que la Terre est âgée de dizaines, voire de centaines de milliers d'années. Charles Darwin médite sa théorie de l'évolution. De mystérieux ossements sont découverts dans les montagnes américaines et les plages britanniques. Des ossements d'animaux antédiluviens, de lézards terribles, en grec, Deinosauros, dinosaures. On se rend compte que l'histoire telle qu'on la connaissait jusqu'alors n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan des temps. Cet élargissement du temps fait appel d'air et on commence à se poser des questions. Que faisaient les hommes pendant tout ce temps? Au milieu du 19e siècle, un Français, Jacques Boucher de Crèvecœur, de Perthes, croit reconnaître dans des pierres taillées et des ossements anciens la trace d'un homme antédiluvien. Un homme d'avant l'histoire. Un homme préhistorique. Une nouvelle période de l'histoire humaine émerge et la course est lancée. Tous les érudits locaux se lancent à la recherche des traces de cet homme préhistorique. Et cette ruée vers la préhistoire va mettre l'île Dieu sous les projecteurs. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop
boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run.
La découverte de la préhistoire au milieu du 19e siècle change la vision des savants sur les mégalithes. On pourrait dire qu'il s'agit d'une revanche. Une revanche des petites gens, de ceux qui fabriquent et qui taillent sur les lettrés qui, jusqu'alors, étaient les seules références de l'histoire. Ce ne sont plus les grands hommes et les grandes batailles qui comptent, mais l'évolution des architectures et les traces du quotidien. C'est une revanche également pour de nombreuses régions d'Europe qui n'avaient pas de patrimoine antique. Tant que seule comptait l'Antiquité, l'île-dieu faisait pâle figure face aux îles méditerranéennes. Avec la mise en valeur de cette histoire au long cours, elle arrive au premier plan. Dès la fin du 19e siècle, le juge de paix, Augustin Auger, est le premier à réaliser des fouilles, notamment à la planche à Peuard. Mais il n'a pas encore conscience de la profondeur historique de ces monuments. Il pense encore qu'il s'agit là d'hôtels pour les druides de nos ancêtres les Gaulois. Il se plante alors de 3 bons millénaires, une erreur assez monumentale. La préhistoire fait officiellement son entrée avec Marcel Baudouin. Cet homme politique républicain et ethnographe passionné se lance dans une mission digne d'Indiana Jones, répertorier tout le patrimoine préhistorique de la Vendée. Dans cette démarche, on peut supposer un arrière-goût anticlérical. Valoriser les époques celtiques et préhistoriques, c'est démontrer que la Vendée existait avant le christianisme et, au fond, on ne lui doit rien. Quand Marcel Baudouin arrive sur l'île-Dieu, il est comme un enfant dans un magasin de jouets. Chaque chemin a son dolmen ou son menhir. Mais notre ethnographe s'est surtout intéressé aux pierres à cupules. Certes, il y a des pierres à cupules ailleurs qu'à l'île-Dieu, mais ici, ce sont plus de 120 rochers qui portent ces marques, de petites cavités circulaires taillées dans la roche. Parfois solitaires, parfois en groupe, elles ont souvent amené les îlets à nommer ces pierres si particulières. Pour Marcel, c'est la trace d'une préhistoire des étoiles.
Il y a longtemps, sur une île lointaine, très lointaine.
La préhistoire des étoiles. Épisode 4, les cupules contre-attaquent. Dans les temps préhistoriques, les agriculteurs se référaient aux étoiles pour déterminer le calendrier agricole. Ces constellations ont alors pris un sens religieux. Ce zodiaque préhistorique, ainsi que d'autres observations célestes, ont alors été consignés et gravés dans des pierres, les fameuses pierres à cupules.
Malheureusement, la théorie de Marcel Baudouin est aussi réaliste que les films de George Lucas. Les archéologues qui ont repris le dossier ces dernières années ont une autre proposition un peu plus sérieuse et étayée. Beaucoup de populations européennes, aujourd'hui encore, considèrent que certaines pierres ont des propriétés magiques. Par conséquent, ils creusent ces roches pour en récupérer une poudre qui sert de remède ou de filtre. Ainsi, la roche des amoureux aurait été utilisée pour lutter contre l'infertilité. L'église chrétienne se retrouva plus tard confrontée à ces pratiques anciennes qu'elle ne pouvait pas vraiment arrêter. Alors, pour tenter de les récupérer à son profit, elle a transformé plusieurs de ces pierres en calvaire. Et oui, comme ça, la guérison de la pierre devient la guérison de la croix, ni vue, ni connue.
Vacarme s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave Dom Guardiam dili 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 la lutes sera dorilom seram dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam dim dim da 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 dim dim da 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 dim. Dans là-haut sera ravi, les toits à se renoir griffera. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans aile. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet.
les pierres à cupules semblent effectivement avoir eu une signification magique ou rituelle, ce n'est pas le cas des autres monuments. En effet, n'en déplaise à l'église, les druides n'ont aucun lien avec la planche à puards et les multiples autres dolmens et menhirs de l'île-dieu. Tout cela remonte au néolithique, ou pour les plus récents, à l'âge du bronze, bien avant les celtes et les druides. Mais alors, si ce ne sont pas des temples des temps anciens, à quoi pouvaient-ils donc servir ? Sur l'île-dieu, en gros, on a deux types de sites. D'une part, il y a les sépultures. De l'autre, les éperons barrés. Commençons par les premières. Les sépultures, c'est par exemple la planche à puards, la roche au froid, et même l'ancien menhir de pierre levée. Tout ça, bah, c'était des tombes. À l'époque, quand vous étiez quelqu'un d'important pour la communauté, vous aviez grosso modo deux options. Avec l'option tumulus, vous aurez une charpente de pierre taillée recouverte d'un immense tas de terre. Ainsi, votre tombe s'élèvera dans le paysage plat de l'île-dieu, et on pourra la voir de loin. L'option menhir est plus sobre et moins coûteuse. Côté enterrement, un simple trou dans le sol suffira. Ensuite, un menhir allant de 2 à 8 mètres de hauteur sera placé à proximité pour que nul n'oublie votre tombeau dans les millénaires à venir. Enfin, pour les plus gourmands d'entre vous, une option de luxe implique un menhir sur un tumulus. Avec les frassoyeurs, vous avez la classe pour l'éternité. Ça, c'est du côté des morts. Mais chez les vivants, en plus des différents sites d'habitation et d'agriculture assez classiques pour ces périodes, il y a les mystérieux éperons barrés. Dès le néolithique, la pointe de la tranche, Ker d'Agneau et la pointe du Châtelet sont ainsi équipés. Mais qu'est-ce qu'un éperon barré ? Là encore, c'est assez simple, je vous propose d'écouter ce petit tuto. Vous prenez un éperon rocheux assez élevé et inaccessible par la mer. Et là, vous voyez, seule une petite portion de terre vous relie alors à l'île. L'idéal, ce serait que cette fine portion de terre soit pourvue d'effleurements rocheux assez élevés. En effet, l'objectif de notre opération est ensuite de construire un mur qui ferme l'accès à l'éperon rocheux pour le rendre entièrement inaccessible. Il en va de votre prestige, alors ne lésinez pas sur les moyens. À l'île-dieu, le classique, c'est trois murs d'enceinte. Pourquoi pas avec un terrassement ? Et bien sûr, une entrée monumentale qui permet de contrôler quiconque s'approche. Pour les détails, par contre, n'hésitez pas à personnaliser pour créer votre propre éperon barré. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les divers mégalithes de l'île-dieu. Mais quelle histoire pouvons-nous raconter à partir de cela ? Tout d'abord, qu'il y avait une société complexe à l'île-dieu. Imaginez la spécialisation et la coordination que demande l'édification de tels monuments. Nous ne saurons probablement jamais s'il s'agissait de chefs tyranniques menant leurs sujets à la baguette ou de communautés démocratiques encourageant de grands travaux collectifs. Cependant, nous pouvons savoir deux choses sur ces sociétés illaises des premiers temps. Tout d'abord, chacun de ces monuments est bâti sur des effleurements rocheux naturels, en osmose et dans la continuité des paysages de l'île-dieu. Comme si les îlets d'autrefois y accordaient une importance symbolique. Comme si, peut-être, ils exprimaient par là qu'ils ne faisaient qu'un avec leur environnement et ses roches sacrées. La seconde chose qui saute aux yeux, c'est le rapport à la mer. Les éperons barrés n'avaient probablement pas vocation à être habités toute l'année, ni même à servir de point de défense. Ils étaient certainement des postes d'observation pour surveiller les activités maritimes, de pêche ou de commerce, pendant la belle saison. Quant aux tombes, elles sont souvent placées sur des promontoires à l'entrée de ports naturels. C'est le cas de la planche à puards pour le port des Broches ou de la tombe récemment découverte à la pointe de Gilberge pour le port de Kerchalon. Imaginez, vous arrivez en bateau ou en pirogue sur l'île-dieu et voyez ces murailles, ces tertres s'élever sur le rivage, loin au-dessus de vos têtes. Vous êtes littéralement sous le regard des îlets, vivants et morts. Alors, en fin de compte, que nous racontent ces pierres ? Ces pierres nous racontent que depuis le néolithique, les îlets ont un rapport particulier à leur île, à ces rochers. Qu'ils les absorbent comme remède, qu'ils construisent leurs monuments pour leur rendre hommage, ou qu'ils surveillent la mer sur laquelle règne l'Insula Oya, l'idée est la même. L'île et ses habitants sont liés, pour les siècles des siècles.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-tin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi.
C'était Historia Oya avec votre serviteur, Martin. Merci de m'avoir accompagné pendant cette exploration de l'histoire de l'île-dieu. On se retrouve très vite sur les ondes de Neptune. Et en attendant, vous pouvez découvrir d'autres podcasts d'Historia Oya sur le site neptunefm.com.
Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Mais Cavardi, Pajot, Kersauzon et Riedel naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requins.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.